Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour parler temps qui court. Tous les soirs, une heure de conversation avec les artistes. Ce soir, Sylvain Prudhomme.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Sylvain Prudhomme.
Il y a le fameux imperméable bleu chanté par Leonard Cohen en 1971, lettre peut-être adressée à lui-même, célébrant un drôle de trio amoureux, écrite dans la mélancolie clairvoyante de 4 heures du matin. Et j'ai toujours adoré la manière dont il dit qu'à New York il fait froid, mais qu'il l'aime là où il vit. J'ai toujours aimé aussi la signature de cette chanson, Sincerely L. Cohen, car il y a de la sincérité dans le mystère et le trouble de cette adresse. Est-ce qu'on peut s'envoyer des cartes postales à soi-même? Est-ce que lire des livres, en écrire, c'est aussi s'écrire à soi depuis une petite table dans la nuit? Dans votre dernier roman, Sylvain Prudhomme, ce n'est pas le famous Blue Raincoat, mais le fameux Sacha, nouvellement installé dans la petite ville de V, qui retrouve une ancienne connaissance, l'autostoppeur, lui, installé avec Marie. Le reste tient dans un profond suspense de chambre, qui se demande ce que l'on est capable de perdre, quelle route on est capable de prendre, à quel endroit on est capable de rester. Votre livre est paru dans la collection L'Arbalète Gallimard et s'appelle Par les routes. Il est à la fois présent dans la sélection France Culture L'Obs, dans la sélection France Culture L'Obs de la rentrée 2019 et à la fois concurrente au prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Et en disant, je me dis qu'il est peut-être sur plein d'autres listes que j'ai pas été consultée, Sylvain Prudhomme. Bonsoir et bienvenue. Éclairez-nous, il est partout ailleurs aussi ou...
Non, il n'est pas partout, mais bon... Non,
il va bien.
Il va bien, oui.
Voilà.
Oui, bonsoir en tout cas, bonsoir. Merci.
On est ravis. On voulait commencer avec une archive d'un auteur qui s'appelle Peter Handke, parce qu'il a été difficile pour moi de voir imprimé sur la couverture Par les routes, sans du tout savoir ce dont il était question dans ce roman, et de ne pas penser à Par les villages. Est-ce que vous y avez pensé, vous aussi?
J'adore ce titre de Peter Handke, oui. Ouais, c'est bien sûr que j'y ai pensé. Il y avait aussi... Bon, il y a bien sûr Kerouac qui est là tout près, et qui est un peu écrasant, un peu envahissant, mais je me suis dit que ce pluriel, comme dans Par les villages, enfin, il renferme une autre promesse que sur la route, qui a, on sent déjà l'odeur de l'asphalte dans le titre de Kerouac, il y a quelque chose qui, on sent qu'on va aller du côté de l'âpreté, vraiment dans le voyage, et par les routes avec ce pluriel, c'est comme si on regardait les choses d'en haut, les routes dans leur dimension de trajectoire aussi, de chemins qui se rencontrent et puis qui se séparent. Et donc, c'est aussi les routes métaphoriquement, enfin voilà. Et donc, je me suis dit, allez, tant pis, c'est tout près de Kerouac, mais osons-le. Et ça raconte quand même autre chose, je pense. Enfin, voilà,
oui, parce qu'en plus, il y a quelque chose presque qui manque joliment au titre. Enfin, le par les routes, il y a l'idée d'un passage, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui passe par les routes. Est-ce qu'il faut qu'on... Donc, il y a, voilà, c'est un titre un peu en suspens. J'avais pas pensé à... Vous voyez, moi, j'avais même pas pensé à Kerouac. Donc, il doit être pas si écrasant que ça. Peter Handke.
Ça commence toujours avec un étonnement, un éclaircissement, oui. Et deux choses différentes vont ensemble et montrent qu'elles sont ensemble. Alors là, on sait que... Mais on ne sait rien. C'est une décision, maintenant. Maintenant, c'est le moment. Maintenant, tu sautes dans l'écriture. Comment on saute dans un trampolin et finalement on dit oui maintenant tu peux pas prendre la fuite sans arrêt. Il faut trouver un rythme surtout. Il faut savoir comment les phrases vont ensemble. Pas un style mais un rythme, un regard ou une sensation et un souffle où on peut se dire, ah, ça peut devenir épique, ça peut durer longtemps. Maintenant, pour moi, c'est très important que je peux vivre et habiter dans l'écriture, même si c'est une habitation qui est assez fragile et assez dangereuse. Ça peut tomber, ou ça peut tomber d'un moment à l'autre. Moi, je me sens par moments en sécurité. Et j'ai une espèce d'office. Je suis le gouverneur d'un état inconnu. Pas le roi, mais un gouverneur. Mais parfois, je suis gouverné. Ça dépend du moment. Du jour aussi. Mais c'est une question du gouvernement.
C'est donc la voix de Peter Handke au micro de Laure Adler en 2011. Et j'invite vraiment chacune et chacun à retrouver l'intégralité de ces entretiens parce qu'ils sont sublimes. Il lui était demandé comment commence l'écriture, mais on peut presque entendre cette archive Sylvain Prudhomme d'une manière très métaphorique sur des décisions qu'on prend dans des histoires d'amour ou dans des parcours de vie. Lui, il dit, ça commence par un étonnement, par un éclaircissement. Vous, il a commencé comment ce livre par les routes?
C'est splendide, c'est vrai, d'écouter la Peter Handke qui parle avec ce calme, ce... tout doucement, mais en disant des choses, waouh. C'est vrai que ça parle, je pense, de la vie tout entière, et sans doute que la vie de quelqu'un qui écrit comme lui, enfin, qui est pleinement dans l'écriture, les frontières doivent être assez minces entre ce qui est hors de l'écriture et ce qui est dans l'écriture. Je pense que tout, on habite complètement dans ce qu'on est en train d'écrire. Ce qui me touche beaucoup, c'est ce qu'il a dit du saut, du plongeon. C'est vraiment comme ça aussi que je sens les choses. Enfin, je particulièrement dans ce livre, je me suis dit ça. Je me suis dit, allez, parce que c'est un livre où peut-être moins que dans d'autres, je m'adosse à un matériau qui préexistait dans les légendes ou dans les grands, dans mes précédents romans. J'avais tout un matériau documentaire qui, malgré tout aussi, sur lequel je m'appuyais, qui me donnait, qui me rassurait, je pense, en fait. Là, je me suis dit, partons sans filet, partons, plongeons vraiment. J'ai pensé ça plein de fois en me disant, essayons d'être au plus près de... Je voulais être au plus près de moi, au plus près des questions qui étaient celles de l'âge que j'ai, là, la quarantaine, un peu hein, j'allais avoir 40 ans, enfin, et je me disais, c'est un peu là, ce milieu de la ville, et j'avais envie que les personnages aient aussi cet âge-là, que je puisse être en chacun d'eux, aussi bien dans Sacha que dans l'autostoppeur, qu'en Marie, enfin, et voilà, avec quelque chose d'assez resserré, en écoutant avec vraiment toute l'attention, que je pouvais, enfin le ce qui passait en chacun d'eux, les incertitudes, les décisions là aussi justement. Et quand il dit qu'on, c'est vrai que par moment on est quand il dit on gouverne et qu'en même temps on est gouverné, c'est très beau, c'est vrai, sur le sentiment, le bonheur immense qu'on a parfois quand on sent que c'est en train de commencer à tenir, que chaque fois qu'on se remet au travail, on retourne dans un monde qui est en train de prendre de la consistance, de la vérité, quoi, en fait. Et des moments où on se laisse petit à petit emporter aussi. Non, c'est bon.
Il dit qu'il faut trouver un rythme, qu'il ne faut pas trouver un style, mais qu'il faut trouver un rythme. Et puisque vous faites référence à vos deux précédents livres, en tout cas, Légendes et les Grands, il m'a semblé qu'il y avait quelque chose qui avait changé du point de vue du rythme de l'écriture, que vous ne marchiez plus sur les mêmes pieds.
Moi, je suis assez persuadé que le rythme, c'est une des premières choses qui est donnée. C'est une des choses qu'on entend au premier. On a envie d'un certain type de durée, d'une certaine couleur, on a envie de marcher à un certain pas en commençant un livre. Et c'est une des premières choses que moi, c'est une des choses qui décide vraiment du désir que j'ai pour le livre que je vais écrire. J'ai envie d'adopter une allure, quoi, quelque chose, et de ça va avec ce plongeon. En fait, on rentre dans toute une matière, en même temps tout un espace-temps, et on désire ça aussi d'abord, et on veut que les personnages évoluent là-dedans à ce rythme-là. Donc moi, ça, c'est une des choses qui me détermine dès le début. Et là, c'est vrai que oui, j'ai eu envie de quelque chose d'assez épuré, de phrases peut-être plus courtes, et bon, c'est vrai que c'est écrit, il y a une chose très différente, c'est écrit à la première personne, ce qui était le cas d'aucun de mes livres précédents, et je voulais, j'étais un peu fasciné par tous les possibles que renferme cette première personne, en fait, parce que à la fois on peut mettre énormément de soi, il y a un effet de vérité tout le temps, on peut penser que là, en plus, quand c'est un narrateur qui est écrivain, qui a 40 ans, j'avais bien conscience que tout de suite on allait penser que Sacha c'était moi, et en même temps il est très clair pour moi que ça n'est pas absolument moi du tout. Il est célibataire, moi j'ai des enfants, je sais pas, enfin il y a plein de choses. Ça c'est un exemple très concret qui d'emblée dès la 2e ou 3e page me sépare radicalement de lui. Mais je pouvais mettre en lui dans ce personnage 1000 choses très sincères de moi, et ça c'était agréable, ce jeu de. Et je pouvais mettre aussi plein de choses comme toujours dans l'autostoppeur, dans le personnage de Marie, mais ça permettait beaucoup de d'incertitude pour moi en fait, donc beaucoup d'inconnus, beaucoup de, et je me suis dit je vais chercher du danger par rapport à ce plongeon dont parlait Peter Handke, plutôt dans ces incertitudes, dans le fait de pas savoir à l'avance où ça va m'emmener, ce que je vais dire au fond de, je sais pas, de la vie, de moi, j'en sais rien, ou de bon là c'est beaucoup sur la liberté, sur le désir. Je me suis dit le danger va être là plutôt que dans la, oui que dans, disons que pour aller chercher ce danger-là, j'ai besoin d'une phrase qui sera assez simple, assez posée quoi, assez calme. J'avais envie d'un grand calme. Souvent j'aime le calme dans les livres, je sais pas, voilà.
Mais on y reviendra parce que c'est aussi peut-être la qualité des livres que traduit le personnage de Marie, qui est donc la compagne du personnage qui s'appelle l'autostoppeur. Mais pour rester sur cette idée-là et reprendre ce très beau mot en français prononcé par Peter Handke, qui est le saut du trampolin, j'ai parlé moi d'un suspense en chambre, parce que moi j'ai eu tout le temps peur en lisant ce livre. Et vous dites que vous avez cherché le danger, mais moi j'ai vraiment eu l'impression parfois, j'avais l'impression que je lisais presque un thriller. est-ce que vous diriez que c'est possible de faire cohabiter ces deux choses-là, c'est-à-dire la recherche d'un livre très calme et en même temps d'un très grand vertige?
J'espère que oui, j'y crois beaucoup. Enfin, les livres qui me crée le plus fort cette sensation de danger, de menace, c'est ceux qui vont tout doucement, qui là ça passe beaucoup par l'absence de ce personnage de l'autostoppeur, le fait qu'il est au loin, le fait que le livre s'en tienne beaucoup au fait. Il fait une chose et puis après une autre. C'est pour ça que j'avais envie d'un livre plus linéaire que les précédents, où je retournais dans le passé. Là, en fait, le fait d'avancer comme ça, comme dans la vie, où des faits, des paroles sont dites, des actes sont posés l'un après l'autre, ça fait qu'on sait jamais ce qui va arriver ensuite, et on sait pas non plus quelles sont les intentions des autres. Ça c'est ce que permet aussi l'écriture à la première personne. Sacha, il sait jamais ce que veut vraiment l'autostoppeur, il sait jamais vraiment ce que veut Marie, à partir de quand Marie commence à l'aimer, est-ce qu'elle l'aime vraiment, est-ce qu'elle est avec lui parce que l'autostoppeur est parti. Il y a toutes ces, et donc ça je crois que c'est assez proche en fait de la situation dans laquelle on est dans la vie. En fait, on est sans cesse un peu paumé face aux autres, déjà pas mal face à nous-mêmes. Enfin, c'est déjà un vaste continent avant de réussir à... Enfin, on n'y arrive jamais à vraiment... Enfin, je veux dire, avant de se comprendre. C'est déjà un bon boulot. D'accéder à l'énigme des autres. Donc, c'est sans doute ça qui crée un peu ce danger.
Et il y a quelque chose dans Par les routes qui dit qu'on n'y accède jamais. Qui dit qu'il y a un moment donné, il faut peut-être être en paix avec l'idée qu'on n'accède pas au mystère des autres. Qui sont opaques.
Ouais, voilà. Mais avec l'idée d'un assentiment possible à ça, et d'une beauté de cet assentiment, en fait, que ouais, l'autre ne nous sera jamais inaccessible, et c'est ça aussi qui est beau chez lui, il nous échappe.
Pour en rester au début et à l'écriture qu'appelait Peter Handke en disant le début c'est un étonnement, c'est un éclaircissement, ce personnage-là, ce narrateur qui s'appelle Sacha et qui arrive dans une ville pour écrire un livre, il veut commencer un livre à partir d'une phrase laissée pour lui en suspens. Laquelle, Sylvain Prudhomme?
C'est une phrase de Flaubert, que moi j'ai toujours... que à peu près tout le monde admire infiniment, c'est la fin de l'éducation sentimentale, le moment où Flaubert a besoin de faire passer 20 ans pour juste clore son roman, et il fait passer ces 20 ans en 3 lignes. Donc voilà, c'est simplement, il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'amertume des sympathies interrompues, il revint, et hop, 20 ans sont passés, on peut... C'est vertigineux, tout ce temps dévidé comme ça, Et on retrouve les personnages vieillis qui sont presque à la fin de leur vie. Le personnage Sacha dans le livre, il a le rêve inverse en fait. Il est tellement fasciné par ces trois lignes qu'il voudrait au contraire arrêter le temps avec l'idée que dans chaque instant, si on le raconte avec toutes ses ramifications, toute sa complexité de sensations, d'associations d'idées, tout ce qu'il y a de vécu dans chaque instant, on finit jamais en fait. On peut même plus avancer et poursuivre le récit. Et donc il veut comme ça essayer de raconter, de raconter ce que c'est que la mélancolie des paquebots, ce qui est juste nommé chez Flaubert. Qu'est-ce que c'est un livre qui ne serait que la mélancolie des paquebots qui essaierait de raconter ça? Évidemment, c'est une entreprise. Impossible, mais c'est ça c'est celle dans laquelle il se lance.
Et est-ce qu'il y a dans ce début-là aussi quelque chose de mélancolique? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'état du départ, c'est-à-dire cet homme qui arrive à 40 ans, qui s'installe dans une petite ville, qui retrouve quelqu'un qu'il a connu, cet autre homme, l'autostoppeur, qui vit avec Marie, et l'état, avec un enfant, Augustin, et l'état des choses qui serait teinté de ça, Sylvain Prudhomme? Au départ, parce que on a beaucoup dit que votre livre était un livre solaire, peut-être à des endroits, mais je trouve aussi qu'il est très porteur de cette mélancolie du départ.
Oui, sans doute, parce que le personnage au début, quand il arrive, il est dans cette. Je pense qu'il change en fait. Au début, il est dans ce constat un peu presque un peu fataliste que la moitié de sa vie est passée, enfin, et que malgré tout, quoi que soit la suite de sa vie. Sa vie aura été pour moitié celle qu'il a vécue. Et donc il dit bon ben ça voilà, ça déjà c'est quelque chose qui est posé.
On ne devient plus.
Il dit ça, mais il change. Enfin, je pense que il rencontre Marie. Il est bousculé aussi par l'autostoppeur et beaucoup par Marie. Et il est déplacé dans ce premier jugement sur la vie qui peut paraître au début mélancolique. Oui, par rapport à ça, par rapport au fait, ce que vous avez dit du fait qu'il est, le livre n'est pas du tout que dans une euphorie ou une foi en
de la rencontre, oui, désir, de la rencontre amoureuse, ce que c'est aussi, hein.
Oui, je pense.
Mais ce n'est vraiment pas que ça.
Mais je pense qu'il y a par exemple une grande violence des départs de l'autostoppeur, tout simplement. Il est un père formidable quand il est là. Il est très amoureux de Marie. C'était très important pour moi que ce soit pas un homme qui est malheureux, qui est insatisfait, qui part parce qu'il en peut plus. À ce moment-là, il y a pas de problème. Il y a pas de roman. Enfin, on peut faire un roman bien sûr du départ. Mais l'énigme, c'est qu'il est heureux. Il est amoureux. Ça va bien. Et donc, pourquoi il fracasse ça? Pourquoi il casse ce bonheur qu'il a? C'est comme s'il en voulait trop. Il veut à la fois ça, il tient très fort à ça, mais il veut tout. Il veut en plus rencontrer d'autres gens. Il voudrait pouvoir être à tous. L'énigme du livre, c'est qu'est-ce qui le fait partir? Qu'est-ce que c'est cette chose? On connaît tous des êtres comme ça qui. C'est toute la bêtise de cette phrase quand on dit t'as tout pour être heureux. C'est bien plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme lui part et avec évidemment un départ qui est, comme il est un peu incompréhensible, il est très violent. C'est une violence calme, faite avec le sourire, mais qui fait très mal à ceux qui restent en fait.
Lui, il dit qu'il le fait parce qu'il faut pas le faire.
Alors peut-être, moi je pense qu'il y a, c'est comme dans la chanson de Barbara, c'est parce que je t'aime que je préfère te quitter. Je sais, cette chose. On peut chercher plein de raisons à ça, parce que je crois vraiment qu'il faut laisser la part de mystère. Mais il y a sans doute, je sais pas, quelque chose de. On a tous des attitudes comme ça des fois dans la. Un peu, je sais pas, pourquoi on détruit des choses qui tenaient bien debout. C'est une grande question pour nous tous.
Je ne sais pas si tu as lu la nouvelle de Kundera où deux amoureux jouent au jeu de l'autostop, m'a demandé Marie en me regardant tout d'un coup. J'ai fait signe que non. C'est l'histoire d'un couple en vacances. Elle est toute jeune, il est plus âgé de quelques années, a sur elle un léger ascendant au début, un peu plus d'expérience en amour, pas grand-chose. Elle est un peu prude parfois, s'en veut, voudrait être plus à l'aise, plus libre. À un moment, il s'arrête pour faire le plein et elle a besoin d'aller dans les bois. Il se moque un peu d'elle car elle n'ose jamais dire le mot « pisser ». Quand elle ressort, le garçon roule jusqu'à sa hauteur et lui dit cette phrase qui lance le jeu. « Où allez-vous, mademoiselle ?» Elle répond du même ton, en le vouvoyant. Et puis, comme elle est montée, il continue. « J'ai de la chance aujourd'hui. Depuis 5 ans que je roule, je n'ai jamais pris à mon bord une autostoppeuse aussi jolie. » La fille sourit. Et à la grande surprise du garçon, elle entre immédiatement dans le jeu. Lui répond du même ton détaché. « Vous avez l'air de bien savoir mentir aux femmes. » Il est estomaqué, en remet une couche, mais elle ne se démonte pas et va même plus loin que lui. Ne s'effraie pas lorsqu'il menace effrontément de la suivre jusque là où elle va. Je me demande bien ce que vous feriez de moi. Il est piqué, jaloux de la découvrir si experte en flirt. À partir de ce moment, c'est comme si chacun se dédoublait. Le garçon regarde la fille flirter avec l'inconnu qu'il fait mine d'être. La fille le regarde draguer éhontément la jeune inconnue qu'il vient de prendre à bord. Ils sont tous les deux à la fois jaloux et formidablement excités de se tromper l'un l'autre en pleine lumière, pour ainsi dire sous les yeux l'un de l'autre. Peu à peu, la tension monte. Ils se punissent en poussant le jeu toujours plus loin. À la fin, la fille essaie de faire marche arrière, mais le garçon ne veut plus. Il monte dans une chambre d'hôtel et il la traite comme une prostituée. Ils couchent ensemble. Et lui est plein de haine. Tous les deux sont dans un état dont ils ne se savaient pas capables. À leur plaisir se mêle une fureur qui le décuple. La fille pleure. Elle est effrayée d'éprouver plus de plaisir qu'elle n'en a jamais eu. Là-dessus, la nouvelle est assez macho. On pourrait en discuter. En tout cas, à la fin, ils sont là tous les deux dans le lit, l'un près de l'autre, et ont toutes les peines du monde à reprendre leur rôle. Elle est en larmes, et lui se sent loin. Il la déteste irréversiblement à présent. C'est comme s'ils étaient passés de l'autre côté, avaient cassé quelque chose d'irréparable.
Le stop pour deux raisons. La première, c'était pour entrer en contact avec les gens. C'est une façon très pratique. C'est une façon très pratique d'entrer en contact. C'était pour créer l'amitié.
Vous dites que c'est la meilleure des universités aussi.
Le tour du monde est la meilleure des universités si on veut apprendre. Mais moi, par exemple, il m'est arrivé en Suède, j'ai demandé, il y a plusieurs façons de faire du stop, il y a celle du feu rouge, de demander directement au chauffeur. Alors ça brise la barrière d'inhibition qui gêne les rapports entre les individus. En général, si on a dit quelques mots, ça, déjà il y a un contact. Alors j'ai demandé, est-ce que vous allez à Stockholm? Et le monsieur m'a dit, monsieur, je ne vous connais pas. Alors je lui ai dit en souriant, je lui ai dit, bien, c'est une bonne occasion de faire connaissance. Ce monsieur a fermé sa fenêtre et a démarré rapidement. Moi, je pense que on a tous besoin des autres, il n'y a pas question de mendicité. Un jour, il y en a un qui se trouve au bord de la route. C'est un échange. Celui qui fait 500 km, il a besoin de compagnie, par exemple. Moi, je sais que j'ai été pris, les gens voulaient m'emmener chez eux. Ils me disaient, oh, c'est intéressant, vous avez beaucoup d'histoires, venez à la maison, ils voulaient me garder. Et c'est un échange. Moi, je ne me mettais pas dans une voiture pour dormir, mais pour connaître l'individu, essayer de comprendre ses problèmes, échanger. Moi, j'ai remercié chaque chauffeur, parce que j'ai toujours pris ça pour un miracle. Même la 1978e voiture, c'était un miracle qui s'arrête. J'ai jamais considéré qu'un chauffeur doit s'arrêter pour moi. Et s'il le fait, c'est un geste d'amitié. Mais je dois le payer en prenant souci de lui, en lui racontant ce que je sais. Il y a des gens qui vont dépenser de l'argent pour aller au cinéma, pour voir souvent des choses qui n'ont aucune valeur. Et moi, j'estime que ce que les gens ont le plus besoin, c'est d'amitié et de chaleur. Et qu'en entrant en contact ainsi, on couvre ce besoin. Les gens ont besoin d'amitié.
Et pourtant, ce n'est donc pas le moyen le plus facile pour entrer en contact.
C'est, à mon avis, c'est très, très dur. Alors, j'entends mon voisin qui dit que lui, il n'a jamais attendu. Eh bien, bravo, je le félicite. Moi, je regrette, j'ai attendu. Une fois, 3 jours en Patagonie.
1975, cette archive délicieuse d'André Brugiroux qui a donc fait le tour du monde uniquement en autostop, Sylvain Prudhomme, et juste avant une lecture par Romain de Bec-de-Lièvre de votre texte Par les routes, où il y a une forme de mise en abîme puisqu'il est question d'une nouvelle de Kundera où un couple joue à l'autostop et se retrouve sur les propres routes de son désir ou de sa violence ou que sais-je, en tout cas de sa propre transformation. C'est dire l'importance qu'a cette pratique-là dans votre texte, dès le départ, Par les routes, mais aussi dans la manière dont vous ne nommez pas cet homme qui part et qui revient et qui ne s'appelle tout du long du roman que l'autostoppeur. Est-ce que ça c'est venu comme une évidence qui serait ça? Parce qu'il peut être plein de trucs, je veux dire, partir et revenir, il y a plein de gens qui le font sans faire de l'autostop. Alors c'est que ça devait être quelque chose d'important pour vous.
Oui, c'est au départ du texte, c'est vrai. C'est même avant le triangle amoureux, avant. En fait, au début, c'est même pas encore un roman. Quand j'en ai l'idée, il y a vraiment au départ le même émerveillement qu'on entendait là dans l'archive, qui était magnifiquement dit. Le constat que c'est quand on termine un voyage en autostop. J'ai pas fait le tour de la Terre, pas du tout, mais j'en ai fait quand même beaucoup, et puis j'en ai refait là ces dernières années un peu pour retrouver ces sensations. Mais je me rappelle que à chaque fois qu'on termine un voyage où on a été pris comme ça par une dizaine de personnes, il y a un sentiment de vertige très fort en fait, en repensant à toutes les conversations qu'on a eues, toutes ces personnes qui ont fait un geste quand même Là, on rejoint des valeurs d'hospitalité, mais très très fortes en fait, qui dans leur dans un habitacle qui aujourd'hui est très confortable où on peut écouter plein d'émissions et exactement la musique qu'on veut. Et ben dans cet habitacle, ils décident de faire rentrer l'étranger absolu et parfois de le garder avec eux pendant des heures, sans savoir du tout ce qui va se passer, sans savoir si ça va être agréable. Et donc je repense à chaque fois, je repensais à tous ces gens, je me disais quel dommage de pas avoir photographié leur visage, par exemple. Je me disais, mais tous, ils font, sans le savoir, ils m'ont aidé le même jour et ils se sont succédés. Ils forment une sorte de famille qui m'a quand même amené assez vite, en fait, de ce point éloigné de la carte à cet autre. Et en fait, il y a aussi le vertige d'entrevoir autant de vies très différentes les unes des autres. Ça déjoue incroyablement la sociologie. Ça déjoue même ce qu'on pourrait penser des convictions idéologiques. Bien sûr que les gens qui ont des valeurs d'hospitalité revendiquées sans doute ouvrent plus. Mais parfois on est très surpris. Voilà, parfois on est très surpris. Moi, j'ai été pris par des gens qui avaient des options politiques sans doute très très opposées aux miennes et qui me. Il y a un moment où là, c'est les actes. On est tout le temps dans la parole, dans les déclarations d'intention et tout. Et là, il y a des gens qui ouvrent ou qui ouvrent pas leurs portières. Et donc, c'est vrai que je me disais, en fait, il faudrait un moment essayer de raconter ça, de raconter cette absence de peur en fait qu'ont plein de gens dans un monde qui est quand même assez dans la peur, assez dans l'envie que tout soit prévu. Même nous quand on prend le train, on est un petit peu remboursé ou je sais pas quoi, on a des garanties dès qu'on a 30 minutes de retard. Enfin, on est protégé de partout sur par rapport à l'incertitude. Et là, tout d'un coup, c'est l'incertitude acceptée par tout le monde, par celui qui fait l'autostop, par l'automobiliste qui s'arrête. On sait pas dans quoi on va, on plonge quoi, comme.
Mais il y a une protection, Sylvain Prudhomme, c'est la durée. C'est-à-dire que dans le cas de l'autostoppeur, ce qu'on comprend bien dans votre texte, c'est que ce risque-là, il est pris parce que d'une certaine manière, ils savent tous que même si c'est un Lille-Marseille, ça sera que un Lille-Marseille.
Ouais, mais c'est pas mal, un Lille-Marseille.
C'est pas mal.
Premier avec le même. Avec
non, mais bien sûr que c'est pas mal. Mais bien sûr que c'est. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même deux risques finalement qui pourraient entre guillemets pas s'opposer mais dialoguer dans ce texte-là, qui est le risque pris dans l'autostop, qui est immense, qui est l'inconnu, mais qui est encadré par une durée. Ok, un Lille-Marseille. L'autre côté, le risque, c'est la vie avec quelqu'un. Et là, il n'y a pas beaucoup de protection, il n'y a pas beaucoup de durée. Et c'est même, on est plutôt sur l'absence de bornage. Et que la peur, sont deux peurs qui sont mises en discussion, en tout cas.
Alors, c'est très beau. J'avais jamais pensé à mettre les deux en rapport. C'est vrai, les deux durées. C'est vrai que là, tout d'un coup, c'est vertigineux, le contraste, c'est vrai. Et on est bien d'accord, le livre est presque tout entier là-dessus, sur cette question-là. En fait, où est vraiment le courage, où est vraiment la... La question n'est pas toujours d'être... C'est pas une compétition de liberté, qui est plus libre et tout, on s'en fiche, mais où est la vérité de la vie? Est-ce que c'est... Effectivement, enfin, je sais pas, quel choix il faut faire, enfin, est-ce que c'est toutes ces fenêtres qui s'ouvrent, ces aperçus qu'on a de plein de vies, ces gens qu'on rencontre vite et qu'on reverra pas? Bien sûr qu'il y a une... L'autostoppeur, il incarne le désir de ça, et en face, il y a l'autre personnage masculin, qui est Sacha, qui lui est celui qui reste, celui qui a cet autre courage, et je suis bien d'accord qu'il est il est pas moindre, bien au contraire, qui est de peut-être se plonger pour la vie, de ce point de vue, je suis complètement d'accord.
Vous avez dit que vous aviez un petit peu refait du stop en préparant ou en écrivant ce texte-là. C'est vrai que en lisant et quand on connaît vos textes précédents, qui s'appuient sur, on l'imagine, des documentations quand même assez conséquentes, qui ont dû prendre du temps, voire des entreprises de recherche même, hein, qu'il s'agisse d'une boîte de nuit en Camargue ou qu'il s'agisse des indépendances guinéennes ou d'une scène musicale à certains endroits. Est-ce que ça a bougé votre façon d'écrire? Vous l'esquissiez tout à l'heure, Sylvain Prudhomme, mais où est-ce que vous avez eu un instant l'envie de vous documenter là aussi sur l'autostop, de trouver cette béquille-là?
Alors non, là c'est vrai que je me suis pas documenté du tout, parce que j'avais qu'à piocher dans plein de souvenirs qui me revenaient, et il fallait même que j'y aille doucement, que je remplisse pas, je ne les injecte pas à chaque fois dans le livre, à chaque fois que j'avais envie. J'avais une abondance en moi de souvenirs, de sensations, de moments d'attente, de souvenirs de moments très précis avec tel et tel et tel automobiliste que j'aurais tous voulu mettre dans le livre. Donc là c'est vrai que j'avais un sentiment moi-même de grande liberté, de quelque chose d'assez reposant dans l'écriture, en fait, où tout d'un coup je n'avais qu'à écouter en moi, enfin j'avais plus, c'était vraiment un livre, je l'ai commencé en me disant allez, on va être au plus près de soi et essayer de l'écrire avec rien, quoi, enfin voilà, juste comme ça en filant, et même effectivement ça convoque parfois des livres, des références, tout ça c'était justement les livres qui m'accompagnent depuis toujours. Je me suis dit soyez vraiment écoutons ce qui est disponible en fait en mémoire involontaire, en fait, ce qui remonte spontanément comme ça. Si j'ai fait des choses un peu documentaires ou qui peut-être que j'avais faites aussi pour les gens ou pour les grands, c'est d'aller voir tous ces villages dont avec, il y a toute une partie du livre où effectivement après l'autostoppeur va voir des villages à cause de leur nom, Allon, Vien, Aubaine, Pin Blanc, Allen, et donc là, j'avais envie d'aller voir un peu aussi, donc je me suis baladé comme ça. Je prenais plein de photos de tous les endroits où je passais. Mais je sais pas, c'était fait. Finalement, il reste peu de ça dans le livre, parce que le nom suffit à faire exister le lieu. Très souvent, j'ai bien vu que c'était pas la peine que j'ai pris 100 photos de chaque d'haleine et de cercle et de contre. Mais ça, c'était le plaisir, en fait. C'était une sorte d'abandon. C'est une sensation assez merveilleuse quand on a repéré sur la carte plein de lieux, de dire allez, j'y vais, et d'être en voiture. Parfois j'étais tout seul, parfois j'étais avec les enfants, j'étais en famille, on allait tous, et de se dire ouais, on peut passer 4-5 jours comme ça à errer d'un endroit à l'autre juste pour les noms. Donc c'était au fond, c'était aussi du côté d'une sorte de liberté, même de repos, en fait, de en tout cas d'un grand bonheur, ça, oui.
Dans cette archive aussi, cet autostoppeur de 1975 dit finalement c'est toujours un miracle quand il y a une voiture qui s'arrête. Ça reste quelque chose qui n'est jamais banal, parce qu'on a tous besoin des autres et que c'est une interdépendance qui bouge. À un moment donné, on est celui qui est sur la route et puis parfois on est au volant, mais il y a un grand besoin des autres qu'il qualifie aussi comme étant l'amitié. Pour le coup, il me semble que ça fait partie des choses que vous travaillez depuis plusieurs livres, cette idée-là, la manière dont les gens sont ensemble, sont amis, comment les liens tiennent avec le temps. Comment ça s'est présenté justement là, cette espèce de relation entre Sacha et l'autostoppeur, dont on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il y a eu du temps, qui a passé entre un premier moment qui aurait été leur rencontre et puis le moment où ils se retrouvent. Peut-être même dit Sacha que s'ils déménagent dans la petite ville de V, c'est peut-être pour le retrouver. On ne sait pas, sans se l'avouer. Vous diriez quoi de la relation de ces deux hommes?
J'avais envie que l'autostoppeur, ça soit. C'est pour ça qu'il a pas de prénom. Il est vraiment ce qu'il caractérise, c'est cette liberté dont il est sans cesse la une sorte de, presque de métaphore, enfin d'incarnation, la disponibilité à ce qui vient. Pour Sacha, qui est plus immobile, qui a toujours été plus posé en quelque sorte, qui veut écrire des livres, qui maintenant en écrit, retrouver cet ami 20 ans après, c'est retrouver son grand ami libre, celui qui osait plus que lui avant, celui qui a toujours été le voyageur, l'errant, le plus capable que lui de s'abandonner au hasard, au présent, à l'instant. Et donc ça le remet face à cette question 20 ans après, la question des choix qu'il a fait, de l'audace qu'il a eu ou qu'il a pas eu. Et j'avais envie que ce soit une relation sans avoir, je pense que c'est pas nécessaire je me suis dit c'est pas la peine d'expliquer exactement ce qui s'est passé entre eux. En fait, on peut l'imaginer, mais simplement on voit bien que la liberté de l'autostoppeur, elle a toujours été fatigante pour celui qui est moins libre. Ça, on connaît tous des gens comme ça autour de nous qui osent plein de choses, qui sont donc à la fois ça nous bouscule, ça nous tire, ça nous fait vivre plein de choses, et en même temps c'est usant la proximité de d'amis comme ça. Parfois c'est nous qui sommes le fatigant, le fatigueur aussi, ou la fatiguée. Et donc c'est là, ça, c'est un type de relation comme ça. Il retrouve son grand fatigueur, quoi. Voilà, et les questions qui vont avec la liberté de cet ami.
Peut-être ouais. D'autant plus fatigant quand une partie du texte laisse entendre que ça pourrait être la même personne, que cette part fatigante de liberté, cet appel en permanence du départ et du large, peut simplement être un endroit de Sacha.
Voilà, ça, j'avais très envie qu'il y ait cette incertitude dans le. Et alors, vous parliez tout à l'heure de la chanson de Leonard Cohen, et j'aime effectivement beaucoup les mêmes. Quand c'est New York is cold, exactement. La façon dont c'est ancré comme ça dans l'instant de l'écriture de la lettre, on est comme ça, paf, très très arrimé à un moment où on écrit. Et c'est vrai que il y a plein de choses qui sont racontées sur cette lettre, mais on ne sait pas si c'est pas Leonard Cohen qui écrit à au Leonard Cohen d'autrefois, plus insolent, plus fougueux, plus et voilà. Et donc j'avais envie que, sans bien sûr que ce soit décidable, mais qu'il y ait cette incertitude dans le livre aussi, que ce soit les deux parts de nous qu'on a un peu chacun en nous. On les a les deux, de toute façon, l'envie d'errance et l'envie de d'approfondissement, en fait.
Sauf que le livre dit qu'à un moment donné, il faut choisir.
En tout cas, il y a des. Je ne sais pas s'il faut choisir, mais simplement.
Tous vos personnages font des choix.
Ouais, Marie choisit, ça c'est sûr. C'est beaucoup l'histoire de Marie, c'est énormément l'histoire.
Sacha choisit aussi. Sacha et l'autostoppeur choisit aussi.
C'est vrai. L'autostoppeur part quand même.
Enfin, il choisit.
On ne sait pas si. Oui, il part. C'est vrai. Non, mais bien sûr, ils choisissent. Ils font des choix qui vont pas tous dans le même sens. Enfin, donc je sais. Moi, je tranche pas. Je sais pas. En tout cas, ce qui était très important pour moi, ça va dans le sens de ce que vous disiez, du courage de pas faire que entrevoir d'autres vies. C'était de pas tomber dans cette idée que qui me paraît un peu facile et assez fausse, surtout que le vrai courage c'est de partir toujours, je voulais que la voix de Sacha, celui qui reste, celui qui est là, qui ne fait pas défaut, je voulais qu'on en sente aussi toute la beauté, toute la liberté, tout le courage, justement. Ça, c'était important.
Pour moi, la littérature est quelque chose entre le jeu d'un prestidigitateur, l'œuvre d'un magicien et un voyage sacré. Tous ces éléments se mélangent et quelquefois le miracle se produit. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais c'est ce qui m'intéresse. Une littérature qui a la force de transformer celui qui lit. Lorsqu'on lit un livre et on arrive à la dernière page, on se dit Comment est-il possible que je sois arrivé jusque-là? Que s'est-il passé au juste? Mais il ne faut pas s'en apercevoir. Il ne doit pas y avoir des dragons, des châteaux. Nous ne sommes pas dans le monde enchanté, comme le monde nordique ou gothique. Mais il doit y avoir quelque chose de très simple. Dans celui qui lit et dans celui qui écrit, il doit y avoir une sorte de transformation pendant la lecture.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Sylvain Prudhomme.
I love you because you understand it. Every single thing I try to do. You that to lend a helping hand, I love you most of all because of you. No matter what the world may say about me, I know your love will always see me through. I love you for the way you never doubt me, but most of all I love you 'cause
Marie a rendu sa traduction du livre de Marco Lodoli. J'ai découvert la fin de Vaporé, la dispute du père et du fils, la fin du jeu, l'anéantissement du rêve, que la vie puisse n'être toujours que légèreté, grâce, refus du sérieux, de la colère, de la haine. J'ai aimé Marie plus fort encore de m'avoir fait lire ça.
Most of all, I love you 'cause you're you.
Elvis qui n'en finit pas de dire pourquoi il l'aime. Juste avant, c'était la voix de Marco Lodoli au micro de Colette Fellous sur France Culture. C'est un auteur qui est entre eux, qui est entre Marie et Sacha. Évidemment, elle est en train de le traduire, mais qui est en fait aussi entre Marie et l'autostoppeur et donc finalement qui est entre tous les trois. Quelle place il a eu dans l'écriture de ce roman, Sylvain Prudhomme, ce Marco Lodoli?
Je crois qu'il a été vraiment essentiel dans le fait d'imaginer petit à petit cette situation, ce triangle amoureux. Enfin, il n'y a pas de dans le Vapore, qui est vraiment un livre moi dont la grâce m'a complètement bouleversé. Il parlait du tout à l'heure, Marco Lodoli, du miracle, du fait qu'on espère ça, qu'on le cherche évidemment. C'est ce qu'on rêve de trouver dans un texte, d'y mettre quand on écrit. Enfin, je suis complètement d'accord avec ça. Et là, vraiment, c'est un texte, c'est étonnant. Ça m'arrive très rare. Enfin, j'étais avec des amis et on était un peu, comment dire, on avait des moments comme ça où on était sur un bateau, en fait, voilà, tout simplement. Le temps était long parce que c'était une traversée comme ça, et il y a des moments où on a lu comme ça des textes à haute voix, ce que je fais très peu, et en fait on prenait le relais les uns des autres, et on a lu Vapore, et on était tous à la fin complètement bouleversés, mais vraiment comme j'ai rarement vu quatre personnes en même temps. Donc le miracle avait opéré, et c'est l'histoire en fait d'un là, il y a pas de triangle, mais simplement c'est un un père, on comprend pas pourquoi, qui part, quoi, qui part alors qu'il est, il est magicien, hein, il est justement tout son art, toute sa splendeur, c'est de savoir rendre la vie belle, de savoir l'habiller comme ça, même quand il y a presque rien, de savoir la, et en même temps, alors que tout va bien, il s'en va, et ça, oui, je crois que vraiment ça, j'avais déjà cet autostoppeur, et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah oui, c'est le même, ce même mouvement d'éloignement. Comment est-ce qu'on vit ça, le départ de quelqu'un, d'abord on désire son retour, après on se fâche, on dit mais quand même il peut pas faire ça, et puis petit à petit on aime moins, enfin on regrette de on est triste qu'il manque de moins en moins, enfin voilà, il y a tous ces degrés par lesquels on passe, voilà, il y avait vraiment cette idée de l'envie de raconter l'éloignement petit à petit, comment et même dans c'est cette chose dans de Ferré, enfin le temps avec le temps, et puis à la fin tout va bien. Oui, on n'a plus même de colère. On est triste de plus avoir de colère. J'avais envie de cet apaisement progressif comme ça dans l'éloignement de l'autostoppeur.
Et si on est sur la piste qu'il s'agisse potentiellement des deux mêmes personnes, est-ce que ça peut pas être aussi ce roman Par les routes, l'idée que c'est pas facile de laisser partir une partie de soi-même, qu'on peut être en colère, qu'on peut être vraiment très triste, qu'on peut même être vraiment hyper triste que d'un seul coup cette partie de nous-mêmes ne finisse par ne plus nous manquer du tout, qu'on le regarde s'éloigner et que on soit là à se dire, ah bon, bah finalement avec le temps tout va et tout va bien.
Je peux pas mieux le dire, c'était vraiment ce que j'essayais de raconter, oui.
Parce qu'il y a quand même ça, à un moment donné, en tout cas dans le texte, pour moi en tant que lectrice, après avoir été dans la peur et dans le danger des déchirements, des départs, des histoires qui se terminent, qui commencent, etc. Bref, dans la brutalité. En fait, des sentiments, tout calmement écrit, Sylvain Prudhomme. À un moment donné, le texte, il vient, et presque grâce à la traduction par Marie de Marco Lodoli, il vient dire, mais en fait, c'est juste le temps.
Oui, moi, ça me touche toujours beaucoup ce grand mouvement qu'on doit tous faire, enfin, qui est l'assentiment, enfin, l'assentiment au, bah, le temps, c'est la donnée la plus, je sais pas, la principale de tout, de notre vie, du fait que, bah, les choses passent, enfin, c'est des, et ça me, comment dire, par moment, on a envie de faire des embardées contre ça, enfin, on peut se fâcher contre le temps, on peut essayer plein de choses, mais le temps gagne. Du coup, ça empêche pas du tout qu'il y ait une beauté. Je sais pas comment dire, mais quand tout d'un coup on accepte ça, en fait, il y a ça laisse la place à toute la vie, à toute la beauté de la vie, en fait. J'aime quand il y a ce double mouvement, à la fois la conscience que ça va finir et qu'il faudra l'accepter, et en même temps en attendant tout est possible, tout est je repensais beaucoup à ce mot des moi je suis pas croyant, enfin je veux dire, mais dans le mot amine aussi, c'est dans ce mot que ainsi soit-il, enfin il y a quelque chose comme ça qui est très fort, c'est pas du tout le fatalisme, mais c'est de dire bah de toute façon ça doit être, et ça je vois que ce, j'aime raconter le moment où on dit d'accord, en fait, ça veut pas dire qu'on accepte tout, hein, pas du tout, mais voilà, et ouais, j'ai, bon
non mais
je sais pas, par exemple il y a une phrase de Flaubert aussi là qui m'a toujours bouleversé, c'est dans l'exergue à la fin du Jardin des Plantes de Claude Simon, c'est un des derniers livres, il va mourir, c'est un des livres les plus autobiographiques, il reparcourt toute sa vie, et il met à la fin du dernier chapitre, probablement de son dernier livre, il sait pas, comme il va peut-être finalement en écrire un dernier, il y a marqué avec les pas du temps, avec ses pas gigantesques d'infernal géant, et il y a tout, je trouve, de la vie dans cette phrase d'un vieil homme, enfin voilà,
Claude Simon, il fait partie des livres que le personnage de Sacha trimballe avec lui. Il y a aussi Villa Matas, il y a aussi Thomas Bernhardt, il y a aussi Garcia Marquez, il y a aussi un petit peu de Spinoza qui traîne dans votre livre, Sylvain Prudhomme. Et là, dans La Voix de Marco Lodoli, Il y avait l'idée qu'il peut y avoir dans une littérature qui atteint ce fameux miracle la potentialité d'une transformation à la fois pour celui qui lit et à la fois pour celui qui écrit. Est-ce que vous y croyez, vous qui avez écrit un personnage de grand lecteur ?
Ah bah oui, oui, je pense, oui, je pense que c'est pour ça qu'on lit, c'est pour, oui, c'est pour que ça nous change, que ça nous, je crois vraiment que c'est pas de vains mots quand, des mots en l'air quand on dit qu'on lit pour se comprendre, que vraiment la vie nous apparaît mieux, la littérature elle peut faire quelque chose que peut-être peut faire un peu le cinéma, mais qu'en tout cas tous les livres qui nous expliquent la vie pourront jamais faire. C'est juste de la recréer, de nous réimmerger tout simplement dans des situations avec leur complexité, avec leur zone d'incertitude, avec avec les sensations, avec tout ce qui passe en nous de contradictoire, de voir des personnages revivre ces situations là, plein de choses clés de la vie, je sais pas, un deuil, un début d'histoire d'amour, une fin d'histoire d'amour, enfin je sais pas, là c'est simplement les faits, le fait de raconter, de retrouver des choses, c'est le plus dur à dire, je trouve, en fait, toutes ces choses là et on n'a pas de mots dans la vie, on a du mal à les dire, et là tout d'un coup quelqu'un essaie de prendre le temps de revenir à cet instant et de le raconter, donc je pense qu'on lit vraiment pour que notre vie soit plus, ouais, soit plus
lisible,
soit plus lisible. C'est
ça. Il n'y a pas de volonté de rupture, mais il se trouve que là effectivement on peut penser que il y a eu des ruptures. La place était une rupture. Je considère aussi que Passion simple était une rupture, et celui-ci c'est une forme de rupture peut-être importante, dans la mesure où par exemple le jeu, la première personne avec laquelle, qui était mon outil d'exploration, a disparu. Il s'est effacé, fondu, je dirais plus que effacé. Il s'est fondu dans un « on », un « nous », et il s'est aussi distancié dans le « elle ». Donc, j'ai failli écrire la sensation que j'avais eue comme à la fin du livre, c'était que le jeu m'avait abandonné. On ne sait pas pourquoi, quelquefois, les choses vous abandonnent. Et le jeu m'avait abandonné au cours de l'écriture de ce livre même. Parce que je m'étais longtemps posé la question de savoir si j'interviendrais en tant que narratrice du livre. Et puis non.
2008, c'est Annie Ernaux au micro d'Alain Weinstein dans l'émission du jour au lendemain sur France Culture, Sylvain Prudhomme. Vous disiez tout à l'heure un peu rapidement qu'il y a quelque chose qui s'est passé de nouveau dans Par les routes, c'est l'usage justement de ce jeu, donc presque un procédé inverse de ce que raconte à l'instant Annie Ernaux. Est-ce que c'est les autres qui vous ont abandonné ? Elle dit le jeu m'a abandonné. Est-ce que vous, le elle, le il, cette manière de pouvoir les raconter à la troisième personne, vous a quitté ?
Moi, je pense que j'ai simplement découvert ça, enfin découvert cette possibilité-là. Avec malgré tout, ça reste un livre de fiction. Donc là, c'était tous les masques que qu'offre le jeu. Mais le Annie Ernaux, c'est une des œuvres que j'admire le plus. Enfin, donc elle part absolument. Elle est partie du jeu, et d'un jeu qui tout de suite s'est posé avec un courage, une acuité d'introspection, qui était extraordinaire. Donc je trouvais très beau ce qu'elle disait de la façon dont petit à petit elle avait l'idée que le jeu l'a abandonné. Je trouve ça très très bon. Voilà, ça me touche beaucoup, et j'adore ces livres, les années, enfin des livres qu'elle écrit à la troisième personne, enfin ou à ce on aussi. J'ai lu là il y a pas longtemps Mémoire de fille. Quel livre extraordinaire. Si on, par rapport à ce qu'on disait de ce que peut la littérature pour ce qui est d'aller chercher dans les choses les plus difficiles à comprendre de nous-mêmes, je pense que c'est un des exemples les plus forts qui existent. Mais comment dire, c'est une démarche malgré tout très assez différente. Moi, je partais de très loin par rapport à ce jeu. Je, et même le jeu que j'utilise là n'est pas un jeu complètement autobiographique.
Ni autobiographique, ni hyper au fait et au clair, si on pense au premier jeu de Annie Ernaux. À la limite, peut-être le moment où on entend quelque chose de cet ordre-là, c'est quand Marie raconte. Quand Marie raconte sa propre escapade, elle a une clairvoyance, elle a une manière d'utiliser le jeu qu'elle est et une manière de dire ce qu'elle a fait et ce qu'elle a décidé, qui est peut-être beaucoup plus claire que tous les jeux employés par Sacha, Autostoppeur et compagnie.
C'est vrai, et d'ailleurs, il y a un moment où j'ai ressenti comme nécessaire que Marie, Marie qui... On n'a jamais la parole de l'autostoppeur ou très peu, il est au loin, quoi. Enfin, et Marie est là, elle c'est quand même beaucoup de son histoire à elle, l'histoire du choix qu'elle va faire, enfin de l'amour qui va finir avec l'autostoppeur et puis ensuite de l'amour qui va commencer avec Sacha. Et c'est elle, c'est pour moi, c'est vraiment le cœur du roman, c'est ce moment où elle prend la parole et j'ai eu beaucoup de, oui, j'ai écrit ce jeu avec presque d'un élan, quoi. En fait, ces trois chapitres où elle raconte, elle, ce qu'elle vit et toute sa traversée aussi de paysage.
D'un territoire. À la différence que, et j'ai pas pu m'empêcher de me faire cette réflexion que c'est la seule qui fait pas de stop. Elle est dans sa voiture et c'est une femme. Et c'est la seule qui, elle, ne traverse pas. Il y a Sacha, il y a l'autostoppeur et ils ont la liberté, eux, de tendre le pouce au bord de la route et elle, non.
Bien sûr qu'il y a sans doute cette inégalité, cette injustice, enfin
prend le volant, ouais. elle traverse, mais je veux dire, elle est dans sa voiture, quoi.
Elle est dans sa voiture, elle passe plusieurs nuits dans des motels comme ça. Elle l'air un peu quand même aussi.
Elle peut pas le prendre ce risque-là.
Elle peut pas le prendre, c'est vrai. Il y a beaucoup de pages de Virginie Despentes dans King Kong Theory sur cette différence, c'est vrai, qui est du risque qui est pris, qui n'est pas le même, effectivement, pour une femme et pour un homme, c'est vrai.
Ouais. Par les routes, c'est le titre de votre roman, Sylvain Prudhomme. Il est paru dans la collection L'Arbalète aux éditions Gallimard. Donc, c'est un roman qui va très bien et qui va d'autant mieux qu'il se trouve donc sur la sélection L'Obs France Culture pour la rentrée 2019. Et puis vous allez aller par les routes des librairies puisque vous faites partie de la liste des concurrents au prix France Culture Télérama du roman des étudiants. Merci beaucoup.
Merci à vous.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came.
À la prise de son ce soir, c'était Éric Boisset. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Romain de Bec-de-Lièvre, Marianne Chassor et Lucie Riandet. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr, vous abonner au podcast de Par les temps qui courent et rester avec nous parce qu'à 22h, c'est le journal. Très belle soirée.
Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train then. You came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. one more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regard. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here, for Jane or for me, well, your enemy is sleeping. And his woman is free, yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. You plan to go clear. Sincerely, L. Cohen.